Seigneur, c'est un grand privilège d'être porté par ta parole et de pouvoir être le son de ta voix. Seigneur, nous sommes heureux de te savoir parmi nous, parce que dans ta parole, tu nous dis, Seigneur, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu y es, Seigneur. C'est à cause de toi que nous sommes ici ce matin. On est venu t'entendre toi, te louer toi, t'adorer toi seul. Alors Seigneur, puisqu'il n'y a rien dans nous qui est digne, puisse ton esprit qui vit en nous te rendre toute la gloire qui t'est due. T'accorde toute la louange qui t'appartient. Car Seigneur, oui, tu en es digne. Bénis ton peuple, que cette parole qui nous porte puisse être déposée dans leur cœur et qu'ils trouvent, Seigneur, racine et qu'ils portent des fruits dans leur vie, pour leur famille, pour l'Église, pour la communauté. C'est notre prière, Père, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Le titre de mon message, c'est que Dieu parle au cœur. Je pense que nos cœurs ont besoin d'être soulagés ces temps-ci, nos cœurs ont besoin d'être soignés, nos cœurs ont besoin d'être ouverts pour recevoir la parole de Dieu. Et ce matin, c'est ce qui est sur mon cœur de vous partager, le cœur de Jésus. Dieu nous parle au cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu parle à notre cœur. Et souvent, on est une église très, très ancrée dans la doctrine, très ancrée dans ce que c'est la fidélité du texte. Et c'est super important d'avoir un texte bien concis, bien écrit, bien structuré et bien expliqué. Mais ce matin, je vais descendre un peu plus bas. Je vais laisser la tête et je vais aller au cœur. Parce qu'un cœur qui n'est pas soigné comprend que dans la tête. Et si on reste avec une théologie dans la tête qui ne descend pas dans le cœur, on n'avance pas dans les voies de Dieu. Peu importe le théologien qui a été touché par le cœur, il comprendra très bien. Jésus est le meilleur des théologiens. Et quand il a rencontré Nicodème, il n'a pas fait un débat d'idées. Il lui a demandé de naître de nouveau, d'avoir un nouveau cœur, une nouvelle naissance. Et ce matin, c'est ce que j'ai le goût de vous partager. J'ai le goût de vous prendre tous dans mes bras comme le Seigneur le ferait. Parlez à votre cœur ce matin. Parlez à votre cœur de Dieu. Je sais que vous êtes tous des étudiants de la Bible, des bons. Vous êtes capables de répondre à beaucoup de questions, mais ça ne veut pas dire que votre cœur n'est pas malade. Ma théologie peut être bonne dans un cœur malade. Et ce matin, je veux descendre plus bas. Je parle à votre cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Pas garde ta théologie, pas garde ta façon d'expliquer la parole, pas garde tes connaissances, mais garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de ton cœur, de tes pensées intérieures, jaillissent les sources de la vie. On dit la bouche parle de quoi? De l'abondance du. Si ton cœur est abondé de mauvaises choses, il est inévitablement que ta bouche va en faire de même. Proverbe 27, verset 19 va nous dire, tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Maintenant, quand vous pensez, quand vous parlez à vous-même, qu'est-ce que vous entendez? Entendez-vous Christ? Ou vous vous entendez vous-même? Ou vous entendez quelque chose ou une voix qui n'est ni vous ni Christ? Ce matin, je veux parler vraiment à votre cœur. Jérémie 17, 9 et 10 va nous dire, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est incurable. » Un terme très médical. Notre cœur est incurable. Mais Dieu peut le faire renaître. Dieu peut lui donner la vie. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Dieu regarde à notre cœur. Ça veut dire quoi? Pour ce point, j'ai voulu prendre le texte de 1 Samuel 16. Vous vous rappelez quand Samuel, il doit aller choisir un roi pour Israël. Il se rend chez Jessé. Et il voit toute la grandeur et la beauté des fils, il dit, oh, ça doit être lui. Parce qu'il regardait sa force, sa beauté, ses capacités, ses habits, la belle apparence. Et il dit, ça doit être lui le roi. Parce que c'est l'image qu'il avait de Saül, un roi grand, un roi fort. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que Dieu va dire à Samuel? Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur de l'homme. Il est vrai que nous, tout ce qu'on peut voir, ce sont les beaux habits, c'est ce qu'il reflète, c'est ce qu'il dégage, il a du charisme, il parle bien. Écoute, il devrait être un bon pasteur. Dieu va dire, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Samuel, ce qui t'a frappé en tant qu'homme, ce n'est pas ce que je cherche. Samuel, ce que tu as comme idée dans ta tête, ce n'est pas ce que je cherche. Je ne cherche pas un homme qui est capable, je cherche un homme que je suis disposé à rendre capable. C'est ça le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas un homme qui va dépendre que de lui pour faire son œuvre. Dieu veut plutôt un homme qui était reculé, qui a appris à faire confiance à Dieu dans le danger. Un homme qui a appris à faire de Dieu son berger. David va l'exprimer clairement, « L'Éternel est mon berger ». David était berger et il dit, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Est-ce que c'est ce qu'on voit de nos yeux qui frappe Dieu? Absolument pas. Dieu va choisir David et il va dire de David, il est un homme selon mon cœur. Est-ce que David était parfait? Absolument pas. Il n'y a pas d'homme parfait. Mais David savait reconnaître ses torts. David savait demander pardon. Et d'autant plus, David savait accepter la correction du Seigneur. Voilà un homme selon le cœur de Dieu. Pas comme Caïn qui va dire « Ton châtiment est trop lourd. » Comme si Dieu était un Dieu injuste qui punissait plus qu'il fallait. David ne va pas dire ça. David ne va absolument pas aller là. Est-ce que vous vous rappelez quand David a fait le dénombrement du peuple d'Israël? Et il ne le fallait pas, c'était interdit. Et quand Dieu envoie le prophète pour lui parler, il lui donne trois choix. Tu tombes devant tes ennemis, tu vas les fuir. Donne un deuxième choix qui m'échappe, et le troisième, que moi je frappe par la peste. Qu'est-ce que David va choisir? Il va dire, mieux vaut tomber entre les mains de l'Éternel que les mains des hommes. David sait que Dieu est juste. David n'est pas seulement dans sa tête, il sert un Dieu dont il connaît le cœur. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez le cœur de votre Dieu? Est-ce que si vous aviez ces trois choix, vous direz, mais je sais bien me cacher, laisse-moi fuir 2 mois, 3 mois devant mes ennemis? Ou vous direz, Seigneur, je préfère être entre tes mains parce que tu es rempli de compassion, tu es rempli de justice, et toi, tu aurais faveur, grâce et miséricorde de moi, mais pas mes ennemis. David n'était pas seulement un homme selon le cœur de Dieu, mais il était un homme qui pouvait toucher le cœur de Dieu. Ce matin, est-ce que vous êtes dans cette position de dire, Seigneur, ce qui m'arrive aujourd'hui, dans la situation que je vis aujourd'hui, tu restes Seigneur et je me soumets à ta volonté. Sommes-nous capables de dire, comme Job, dans la souffrance, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche? Connaissons-nous le cœur de notre Dieu? Ce matin, toute l'Église vit une tristesse. On est affecté, on est triste, parce qu'on est un seul corps, c'est normal. C'est normal. Mais est-ce que nous voyons Dieu dans ce que nous vivons ensemble en ce moment en tant qu'Église? Est-ce qu'on accepte de se soumettre à la volonté de Dieu? Est-ce qu'on connaît son cœur? Comme Kali disait tantôt, il ne nous appelle plus serviteurs, mais amis. Parce que le serviteur ne sait pas qu'est-ce que fait son maître. Mais l'ami, oui. Comment, ce matin, on peut, dans nos prières, toucher le cœur de Dieu? Et dans le passage que David va choisir la peste, et pendant que 70 000, je pense, hommes sont morts, et l'ange voudrait continuer à faire encore des morts par la peste, et Dieu va dire, retire ta main, c'est assez. Dieu est compatissant. On sert un Dieu qui est vraiment, vraiment, mais vraiment bon. Ce matin, est-ce que c'est le Dieu vers lequel vous vous tournez quand vous priez? Ou est-ce que vous avez fait un Dieu à votre mesure? Mais notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur ne regarde pas à l'apparence, regarde plutôt à notre cœur. Pendant que je parle, pensez à votre cœur. Est-ce que vous gardez votre cœur par-dessus toute autre chose? Êtes-vous capable d'exprimer les souffrances de votre cœur à Jésus? Sachez que Jésus est venu guérir ceux qui sont brisés, malades, perdus, souffrants. Est-ce que vous connaissez ce Dieu? Est-ce que vous avez un Dieu de miracles seulement, ou est-ce que vous voulez le voir faire des miracles? Est-ce que vous avez un Dieu que vous voulez seulement entendre les principes doctrinaux? Est-ce que vous avez un Dieu qui est selon votre concept, ou est-ce que vous devez défaire votre concept pour trouver vraiment le vrai Dieu comme il se présente? Si Dieu regarde dans mon cœur, je dois faire attention de garder mon cœur par-dessus toute autre chose. Dans 2 Chroniques 16, 9, il est écrit que les yeux de Dieu parcourent continuellement la terre pour fortifier les personnes dont le cœur est pleinement engagé vers lui. Dieu parcourt continuellement la terre pour fortifier. On a un Dieu qui fortifie. Mes chers amis, ce matin, je voudrais vous dire comme deuxième point que votre cœur est le lieu de rencontre et de vérité avec Dieu. Votre cœur est le lieu de rencontre et de vérité avec Dieu. Ésaïe 61, le premier verset va nous dire, « L'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Wow! Voilà pourquoi il est venu. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, lieu de rencontre avec le Seigneur. Je vais prendre un exemple. Vous vous rappelez que Lazare était malade. Et les sœurs de Lazare Marie envoie dire à Jésus, « Mon frère, ton ami est malade. » On est à Jean 11, 32, 36. Et Jésus va rester 2 jours après avoir entendu la nouvelle. Et il revient, ça lui prend 4 jours. Donc, il revient par la suite. Et qu'est-ce que Marthe, qui entend Jésus, va arriver? Qu'est-ce qu'elle va aller devant Jésus et qu'est-ce qu'elle va lui dire? Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. L'accueil est dur, n'est-ce pas? Jésus vient voir Lazare et la première phrase qu'il entend, les premières paroles qu'il entend de la sœur de Lazare, Marthe, c'est « Si tu étais ici, mon frère, il ne serait pas mort. » C'est un peu de ta faute que ça arrive. Parce que tu aurais pu le guérir, je le sais. Mais si tu étais là, je suis sûr que Lazare serait encore en vie. En d'autres mots, elle est en train de dire « C'est aussi de ta faute, mais en même temps, c'est un peu tard. » T'es un peu tardif dans ton arrivée, Seigneur. Et quelque chose qui nous échappe dans ce texte et qui m'a échappé pendant des années, lisons ensemble. Jean 11, 32 à 36. Lorsque Marie fut arrivée là où était... Oh, je ne l'ai pas ici en bas. OK, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta et il se troubla. Qui se troubla? Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur lui répondit-il, « Viens voir. » Jésus fondit en larmes. On ne s'arrête pas assez souvent là-dessus. Fondit en larmes veut dire qu'il pleura amèrement. Jésus pleura amèrement. Et on passe sous ce passage et on prêche souvent comment il a ressuscité Lazare, comment il a dit « Lazare, sort !» Mais on ne s'arrête pas pour voir Jésus avait pleuré à chaudes larmes avec ceux qui pleuraient. Jésus est allé dans leur misère. Il est allé exactement où ce que ces gens-là souffraient. Il a souffert ce deuil avec eux. Il a pleuré avec ceux qui pleuraient. Les Juifs disaient donc, c'était vraiment son ami. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne meure pas? Mais Jésus, son cœur était touché par la tristesse. Son cœur était vraiment troublé parce que ces gens étaient vraiment peinés. Combien de fois nous allons voir des gens qui sont dans la souffrance et dans la misère, nous ne prenons pas le temps de pleurer avec eux. Nous voulons leur donner une solution comme les amis de Job. Mais Jésus est allé au cœur. Il est allé voir dans leur misère. Il est très, très empathique à nos souffrances. Jésus n'est pas indifférent à notre souffrance, à nos pleurs, à nos larmes, à nos difficultés. Là où ce qu'on pleure, il pleure avec nous. Si votre cœur est attristé ce matin, Jésus est exactement là où vous souffrez. Si vous pleurez, il pleure. Il accomplit la parole. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleure. Et là, il pleure. Il fondit en larmes à cause de la souffrance et la peine. Et on voit Jésus. Jésus a sûrement pleuré plus qu'on le voit. On voit trois fois, en fait, les pleurs de Jésus. On le voit pleurer ici, pour Lazare. On le voit pleurer sur Jérusalem et les péchés. Et on le voit pleurer dans le jardin de Gethsémané. Mais il a sûrement pleuré plus que ça. Et je me permets de dire, parce qu'à la fin du chapitre du livre de Jean, il dit, si on devait écrire tous les miracles et toutes les choses que Jésus a fait, le monde ne pourrait pas le contenir. Donc, c'est sûr que l'Évangile nous donne un bref récit nécessaire, mais on peut s'imaginer que Jésus a pleuré plus que ça. Parce que s'il a un cœur compatissant face à la souffrance, il ne peut pas rester indifférent. Sommes-nous indifférents ce matin avec ceux qui souffrent? Les gens n'attendent pas une solution de nous. Ils attendent de la compassion. S'ils veulent être guéris, ils vont aller vers un médecin. S'ils viennent de nous, ils veulent être écoutés. Ils veulent être compris. Ils veulent être reçus. Ils veulent qu'on descende un peu plus bas que la tête, mais d'aller dans leur cœur. Et Jésus n'a pas été dans la tête de Marthe, ni dans la tête des disciples, pour leur dire, calmez-vous, vous savez que je peux le ressusciter. Non, il pleura d'abord. Il est allé les rejoindre dans leur souffrance et dans leur misère. En tant que pasteur, en tant que frère, en tant que croyant, il est préférable d'abord d'aller rejoindre les gens dans leur souffrance que de leur proposer d'abord des solutions. Parler au cœur des gens, c'est ça. Comprendre quelqu'un, c'est cela. Aimer quelqu'un, c'est cela. D'aller dans son cœur, de pleurer avec. Quoi qu'il sait qu'il va faire le miracle, quoi qu'il sait que Lazare va être ressuscité, vous lirez le texte, il le sait d'avance, mais il prend quand même le temps de pleurer avec ceux qui pleurent. Votre cœur, un lieu de rencontre et de vérité. Et là, il les a rejoints dans ce lieu de rencontre et de vérité. Un deuxième exemple. Vous vous rappelez de Zachée? Homme de petite taille, nous dit le texte. Et il savait, c'est un péager, donc il était à la frontière, il faisait de l'argent, un collecteur d'impôts, qui semblait très, très riche. Selon le texte. Et il entend qu'un certain Jésus arrive et il fallait qu'il passe par où il était. Et le texte va nous dire dans Luc 19 que à cause de sa petite taille, il ne pouvait pas voir Jésus. Il a dû monter sur un sycomore, sur cet arbre, pour le voir. Parce que pour lui, c'était important de voir qui était ce Jésus que tout le monde parlait. Et dans ce texte, pendant que Jésus y marche, et il va voir Zachée en haut de l'arbre. Et il va dire quelque chose en passant encore qui m'a échappé et qui peut-être vous a échappé souvent dans le texte. C'est que Jésus fait quelque chose qui ne se fait pas jusqu'à aujourd'hui. Et je ne vois pas Matthieu, je dis « Hey, ce soir, je mange chez toi. » Et j'attends d'être invité, je ne m'invite pas chez quelqu'un. Et Jésus va lui-même s'inviter. Et vous savez, dans notre culture, ça ne se fait pas. On ne s'invite pas chez les gens. On attend d'être invité. Et Jésus va faire deux choses complètement hors normes. Il va non seulement dire à Zachée, « Dépêche-toi de descendre. Je veux aller manger chez toi. » Et quand? Aujourd'hui. J'espère que sa femme était prête. Et c'est quand même incroyable de voir comment Jésus s'invite chez un homme pécheur. Et c'est encourageant pour nous tous de voir que Jésus peut s'inviter chez nous. Et il ne veut pas attendre le lendemain, il ne veut pas attendre trop longtemps, il veut rentrer chez nous dans notre maison maintenant. S'il l'a fait pour Zachée, il veut le faire pour chacun de nous. Des fois, on regarde Jésus trop de loin, on le regarde trop de haut, il faut descendre. Et il nous appelle à descendre. Il veut venir chez nous. Il veut rentrer chez nous ce matin. Il veut partager un repas avec nous. Et vous savez, dans la culture Moyen-Orient, partager un repas veut dire être en communion de cœur avec cette personne-là. C'est pour ça que les disciples vont dire, s'ils savaient qui était Zachée, ils n'iraient pas loger chez lui. Mais Jésus passe toujours, toujours par-dessus nos fautes, nos péchés, avec miséricorde et grâce. Jésus ne regarde pas à nos péchés pour entrer chez nous, mais il regarde à sa miséricorde et à sa grâce. Je vous invite à le faire à chaque fois que vous abordez quelqu'un, avec miséricorde et grâce. Jésus sait qui est Zachée. Jésus l'a déjà scanné. Donc, ce que les gens disent de Zachée n'importe peu à Jésus. Il veut rentrer dans le cœur de cet homme. Il veut trouver cet homme. Et là encore, permets-moi de romancer un peu, parce que le texte ne nous en dit pas beaucoup. Pendant qu'il soupait, Zachée décide de... Non, Jésus l'a sûrement parlé à son cœur. Pour que Zachée arrive à dire, « Si j'ai fait mal à quelqu'un, je lui rembourse. » Et je vais donner quatre fois. Vous savez, c'est seulement quand vous passez au-dessus des péchés, avec miséricorde et grâce, que quelqu'un peut se confesser de ses péchés. Si vous affrontez quelqu'un sous son péché, vous le bloquez. Et Jésus ne veut pas affronter le péché. Il est venu guérir les cœurs brisés. Le péché nous a tous brisés. Notre cœur, à cause du péché, est incurable, à moins qu'on vienne le rencontrer avec miséricorde et grâce. Et c'est ce que Jésus va faire pour Zachée. Il va le rencontrer avec miséricorde et grâce. Et c'est seulement là que Zachée est capable, étant guéri de la miséricorde, du pardon de Jésus, est capable de dire « Maintenant, je vais rendre. » Je vais demander pardon et remettre tout le mal que j'ai fait. Est-ce que c'est comme ça qu'on approche les gens? Ou est-ce qu'on veut aller toucher à leur péché? Jésus, à part quand il parlait des pharisiens qui se présentaient comme docteurs de la loi, il les traitait d'hypocrites devant tout le monde. Regardez bien le texte. Quand c'est une simple personne, Jésus le rencontre toujours avec miséricorde et grâce. Il travaille dans leur cœur. Est-ce qu'après une rencontre avec quelqu'un, il se lève comme Zachée et il confesse lui-même ses péchés et il va rendre de lui-même ce qu'il a fait? Si qu'on rencontre quelqu'un, ce n'est pas ça qui arrive, on a peut-être manqué le but d'avoir bien parlé à son cœur. On n'a pas besoin de pointer le péché de qui que ce soit, il connaît son péché mieux que nous. Et on n'a pas le pouvoir, nous, de pardonner les péchés, mais on a la capacité de le recevoir dans sa douleur et dans sa misère. Et nous devons le faire en tant que frère, en tant que sœur. Un autre exemple que je ne me passerai pas de vous citer, la femme samaritaine. Une simple femme qui vient au bord d'un puits en plein soleil. Et on venait puiser un groupe de femmes, et elle vient seule. Et le texte va nous dire dans Jean 4, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, et il rencontre la femme au bord du puits, et va lui dire, « Femme, donne-moi à boire. » Et la femme va lui dire, « Comment toi qui es juif, demande à moi, une Samaritaine, de l'eau à boire? » Et Jésus l'a dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau, une eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Et la femme dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. J'en ai honte d'être toute seule. Je viens pendant que tout le monde fait la sieste. Parce que je ne veux pas qu'on me voie, je suis une rejetée de la société. Est-ce que Jésus va dire, ah, c'est vrai, tu es une rejetée de la société. Et là, la femme essaie de faire un débat avec Jésus en disant, oui, je sais que le Messie doit venir. Jésus va la dire, oui, je le suis. Tes questions, je vais y répondre. Et là, Jésus va aller dans son cœur. Il va dire, va chercher ton mari. Et là, pour nous, encore quelque chose qui m'échappe, on pense que c'est juste Jésus veut toucher à son péché. Non, Jésus veut toucher à ce qu'elle n'a jamais dit. Jésus va lui dire, tu dis vrai, tu n'as pas de mari. Tu en as eu cinq. Et celui avec qui tu es, il n'est pas ton mari. Et là, le texte, encore, est assez bref, on nous dit, elle laisse sa cruche, puis elle part. Je suis sûr qu'il y a une conversation beaucoup plus intime. Et je m'explique pourquoi. Parce que quand elle est partie, elle a dit, j'ai trouvé un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Pas juste j'ai cinq maris, mais il m'a dit tout ce que j'ai fait. En d'autres mots, ce que personne ne savait de moi, lui, il le savait. Jésus ne l'a pas jugé en disant que tu étais une mauvaise femme parce que tu as eu cinq maris. Mais au contraire, il est venu lui offrir une eau vive pour la guérir. Il est venu la retrouver encore dans sa souffrance, dans son cœur, ce lieu de rencontre et de vérité. Merci Seigneur. Quand Dieu nous rencontre dans ces lieux de vérité, on fait comme la femme. On laisse nos cruches au sol, synonyme de nos problèmes matériels, de nos besoins matériels. Et quand on fait une rencontre de cœur à cœur avec Dieu, on laisse nos problèmes matériels, on les oublie. Le seul envie qui nous porte, c'est de parler de lui. C'est d'aller dire tout ce qu'il a fait. C'est d'aller dire comment il a été bon envers nous. C'est d'aller dire, j'ai trouvé une eau qui n'est pas comme toutes les eaux. J'ai trouvé un homme qui n'est pas comme les autres hommes. Et la parole va dire que beaucoup ont cru et même certains sont allés voir Jésus pour dire, maintenant nous-mêmes aussi, nous l'avons rencontré. Mais c'est une femme. Une femme est rejetée à ce moment-là. et encore plus une femme de ce genre de vie. Mais encore une fois, Jésus a passé par-dessus sa vie avec miséricorde et grâce. Avons-nous assez de miséricorde et grâce pour écouter les gens qui souffrent? Avons-nous assez de miséricorde et grâce pour recevoir les gens qui disent « j'ai péché » Avons-nous assez de miséricorde et grâce pour nous fermer la bouche au jugement et ouvrir notre cœur à la compassion? Hébreux 4, 16 nous dit, les Écritures nous ordonnent de nous approcher hardiment du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et grâce, pour trouver l'aide en cas de besoin. C'est comme ça qu'on doit approcher. C'est comme ça qu'on doit recevoir les gens. Et je veux terminer avec cet exemple qui nous fera savoir au moment où ce qu'on va parler au cœur, si la personne va répondre de Dieu ou non. L'histoire du jeune homme riche. Il accourt devant Jésus. Il lui dit, bon maître, qu'est-ce qu'il me faut faire pour avoir la vie éternelle? C'est très intellectuel ce qu'il demande à Jésus. On a l'impression que c'est spirituel. Et Jésus va lui dire, « Pourquoi d'abord m'appelles-tu bon? » Si on reste à la tête, on va dire, « Ben oui, il a raison, il y a juste Dieu qui est bon, mais Jésus sait qu'il est bon. » Et il va dire, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Il va lui dire, observe les commandements. Il va lui en citer 6. Tu ne commettras pas l'adultère, tu ne convoiteras pas, etc. Et lui va dire, j'ai fait tout ça dès ma jeunesse. Est-ce que Jésus est en train de lui dire qu'on est sauvé par les commandements? Absolument pas. On est sauvé par grâce. Mais lui, il parle à la tête. Et Dieu va lui donner des commandements qu'on peut suivre avec notre tête. Ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne tue pas, ne convoite pas la femme de ton voisin, etc. Et il va dire à Jésus, « Mais j'ai fait tout ça depuis ma jeunesse. » Et qu'est-ce que le texte nous dit? Jésus l'aima. Pourquoi? Parce que il a un cœur tendre, le monsieur. Il a raison. Il a une telle confiance dans la loi de Dieu qu'il est capable de le dire à Jésus, « Mais je l'ai observé, moi, la loi. » Et Jésus va lui dire, « Oh, je l'aime. Ah, je l'aime, ce gars-là. » Là, il y a une chose qu'il ne faut pas qu'il nous échappe dans le texte. Là, Jésus va dire, « Voilà, on va voir maintenant dans ton cœur si tu as observé la loi. Prends tout ce que tu as. Vends-le et donne-le aux pauvres. » Qu'est-ce qui arriva au jeune homme riche? Il partit comment? Parce qu'il y avait deux commandements que Jésus ne l'avait pas dit. Aime Dieu de tout ton cœur et de tout tes... Et ce commandement, il ne pouvait pas l'observer parce que dans son cœur, il y avait un autre Dieu. Par la tête, tu peux observer la loi. Mais descendons un peu plus bas et regardons si ton cœur est vraiment à Dieu. Et s'il n'est pas à Dieu, tu partiras tout triste parce que tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Et lui, il y a un commandement qui était trop dur à faire, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Maintenant, à nous de voir comment on va partir devant Dieu quand il parlera à nos cœurs. Est-ce qu'on va être ressuscité comme Lazare? Est-ce qu'on va pleurer avec les autres? Est-ce que comme la femme samaritaine, on va aller prêcher qu'on a trouvé un homme, quelqu'un qui est différent que toutes les autres. Ne serait-il pas le Messie? Ou encore est-ce qu'on partira tout triste parce qu'il y a un autre Dieu dans notre cœur? Je vous laisse penser à tout ça. Seigneur, toi qui parles au cœur, toi qui es notre Dieu, toi qui es tout à fait digne de rentrer dans notre maison et de changer nos vies, Seigneur. Change le cœur de la Bible parle. Et si notre cœur est comme cette femme samaritaine, permets qu'on puisse te l'ouvrir afin que tu puisses voir complètement les choses qu'on ne dit pas. Permets qu'on pleure comme tu as pleuré avec Marthe et Marie. Mais surtout, Seigneur, ne nous laisse pas partir comme ce jeune homme riche et un autre Dieu dans notre cœur qui était tellement caché par la loi et par notre bonne conduite. Mais reçois-nous et permets qu'on te reçoive dans tout l'amour et la grâce et la miséricorde que tu as pour nous. Que toute cette parole qui a été dite ce matin puisse demeurer dans nos cœurs et qu'on puisse trouver, Seigneur, salut, miséricorde, grâce en ton nom et en ton nom seul. T'en prions, aie pitié de nous, dans le nom de Jésus. Amen.